enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Deuxième livre des Rois, chapitre 13, et on lit à partir du verset 14. Hier soir, je travaillais un peu pour, pas le déménagement, mais pour l'université. J'avais des devoirs à faire. Puis j'ai demandé à ma femme de m'aider un peu, parce qu'elle me corrige mes fautes. C'est bien, hein? Alors, elle a lu mon texte et tout, mon devoir, puis elle était là. Elle a dit, j'espère que c'est pas ça que tu vas prêcher demain matin. Rassurer, je vais la rassurer, c'est pas ça du tout. On va laisser aux universitaires leurs mots et leur théologie. Mais nous, ce matin, on veut quelque chose de simple, quelque chose comme on l'a chanté. C'est pas par force, c'est pas par puissance, c'est pas avec des grandes choses. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes, les choses folles pour confondre les sages. Et nous, ce dont nous avons besoin ce matin, c'est pas de belles paroles, mais c'est la puissance de l'Esprit, comme on l'a chanté. Que le Saint-Esprit là, puisse parler à notre cœur au travers de ses paroles. On est là dans 2 Rois, chapitre 13, verset 14. Vous avez trouvé ? Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire !» Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Éphec. » jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Et il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper cinq ou six fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras trois fois. » Voilà l'histoire de Joas et du prophète Élisée. Notez bien qu'Élisée, c'est un prophète rempli de la puissance de Dieu. L'onction de Dieu est sur lui, il vit avec Dieu, on voit toutes sortes de miracles avec le prophète Élisée, si vous lisez le livre des Rois. Et voilà qu'Élisée, pourtant, est malade. C'est ce qu'on a lu au verset 14, il est malade. Et même, par anticipation, ils disent, il est malade de la maladie dont il mourut. Cette maladie va le conduire à sa mort. Est-ce que c'est pour autant un mauvais prophète? Est-ce que c'est pour autant pas un homme de Dieu? Est-ce que Paul est un mauvais apôtre quand il fait naufrage? Quoi, s'il était bon apôtre, il aurait prié et puis Dieu aurait fait en sorte qu'il n'y ait pas de tempête. Est-ce que c'est un mauvais apôtre, Paul, s'il se retrouve en prison, s'il se retrouve battu, s'il se retrouve attaqué par des brigands, fouetté, toutes sortes d'affaires? C'est bien d'être un homme de Dieu. Vous voyez tout ce qui vous attend si vous voulez être un homme de Dieu. Non, les circonstances terrestres, ce qui arrive là à Paul, ce qui arrive à Élisée, sa maladie, n'a rien à voir avec sa vie spirituelle. Les choses sont ainsi. Même l'apôtre Pierre va dire, « Puisqu'il le faut, pour un temps, vous soyez éprouvés. » Est-ce que surprenant dans cette parole de Pierre, c'est dans sa première épître au chapitre 1er, il le dit, puisqu'il le faut. On ne sait pas trop pourquoi, mais il le faut, c'est comme ça. C'est la vie qui vaut ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, on est sur un monde où il y a la maladie. Eh bien, Élisée est atteint de la maladie au même titre que les autres. Et voilà qu'il est malade de cette maladie dont il va mourir et on sait. Le monde sait qu'il est en train de mourir quelque part et qu'il est atteint d'une maladie qui va le conduire à sa mort. Et le roi Joas l'apprend. Le roi Joas apprend que Élisée, c'est pour bientôt. Alors il va voir Élisée. Et il va lui dire, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Ça veut dire quoi, ça? On va voir un prophète et on dit au prophète, mon père, bon, qu'il appelle prophète mon père, pourquoi pas, en se considérant comme étant son disciple, parce qu'à l'époque, on voit que les prophètes, ils ne disaient pas père, mais enfin les prophètes, les disciples étaient appelés les fils du prophète. Hein, on trouve ça souvent dans le livre des rois, les fils des prophètes, le prophète et les fils des prophètes. Ce n'est pas les fils dans la chair, mais c'est ses fils spirituels, ses disciples quelque part. On retrouve ça dans le Nouveau Testament aussi, quand on voit l'apôtre Paul qui dit « mes enfants bien-aimés », ou à Timothée qui appelle comme son fils. Bien. Alors là, Joas, le roi d'Israël, vient voir le prophète et lui dit « char d'Israël et sa cavalerie ». Et on voit que Élisée tout de suite répond « voilà ce que tu vas faire ». Élisée comprend le message. Est-ce que nous, on comprend ce qui se passe? Quel rôle de présentation, quel rôle de prière de venir voir Joas. Joas vient voir Élisée et l'entrée en matière, vous savez, il va droit au but et dit « voilà pourquoi je suis venu, c'est pour char d'Israël et sa cavalerie ». Ça vous rappelle rien, ça? Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ça vous rappelle peut-être rien, mais Élisée, ça lui a rappelé quelque chose. Ça lui a rappelé le temps où il était jeune. Parce que là, il a de l'âge. Le temps où il était jeune et qu'il était disciple, serviteur d'un autre prophète, Élie. Élisée était là, disciple d'Élie, se souvient du jour de la rencontre où Élie passait, Élisée était en train de travailler et travaillait dur, puisqu'il avait là plusieurs paires de bœufs et il était là en train de travailler avec ses 12 paires de bœufs, il travaillait dur dans les champs. Et voilà que Élie, le prophète, vient, jette son manteau sur lui. Elle lui dit « Suis-moi ». Et Élisée va tout laisser et va suivre Élie. Et va voir, suivre Élie, entendre la parole de Dieu au travers de ce prophète. Et puis donc, va être là au service d'Élie, va le suivre. Et va être formé quelque part par Élie. Et voilà que le temps où Élie doit remonter au ciel, puisque Élie va monter au ciel dans un char de feu, c'est un des rares cas où on voit une mort comme ça. Élie va pas mourir, mais va monter au ciel directement. Et bien là, Élisée est là. Et voilà que Élie est en train de remonter au ciel dans un char de feu. Et Élisée va s'écrier, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Là, on comprend, Élisée appelle Élie et char d'Israël, il y a là le chariot de feu, il y a là toute l'armée céleste, et voilà que Élisée va crier ça alors que Élie est en train de remonter. Et on se souvient de cette réclamation que Élisée avait fait à Élie avant qu'il ne monte dans ce char de feu, c'est de dire ce que je veux. C'est une double portion de ton esprit. Je suis ton serviteur, je suis ton successeur quelque part. Tu as jeté ton dévolu sur moi, tu as jeté ton manteau sur moi. Je suis devenu ton disciple. Tu m'as demandé de te suivre, je t'ai suivi. Je veux pas seulement être comme toi. Je veux être mieux que toi. Je veux pas seulement être un peu mieux que toi. Je veux le double. Vous croyez pas que c'est un peu exagéré quand même là? Élisée dit à Élie, écoute Élie, tu étais un grand prophète. Il y a eu beaucoup de miracles avec toi. J'ai vu des morts ressuscités, j'ai vu des choses extraordinaires. Je veux pas un peu de ce que tu as, je veux pas tout ce que tu as, j'en veux deux fois plus. Est-ce qu'on réagit comme ça, nous? Est-ce que c'est notre attitude de cœur? On dit, je veux pas seulement là ce que tu peux me donner, mais j'en veux plus. J'en veux beaucoup plus. J'en veux deux fois plus. Une double bénédiction. J'en veux plus. Quand on est là, je ne sais pas si vous avez des modèles dans la vie, et des modèles par rapport à la foi, des modèles par rapport à la vie chrétienne. En tout cas, l'apôtre Paul, lui, se dit, soyez mes imitateurs. Donc, regardez-moi comme modèle, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et même l'apôtre Paul dira à Timothée, sois un modèle. Et même encore aux Hébreux, il dit, considérez la vie de ces conducteurs spirituels et imitez leur foi. Eh bien, c'est bien d'avoir des modèles et de dire, tel homme de Dieu, ça c'est quelqu'un de bien. J'aimerais être comme lui. Pas seulement j'aimerais être comme lui, j'aimerais être mieux que lui. Non? Est-ce que Jésus est notre modèle? Ah, est-ce que ça marche là, ma petite démonstration? Est-ce qu'on peut faire mieux que Jésus? Pourtant, Jésus va dire, celui qui croit en moi va faire des miracles plus grands que moi. Vous voyez ce principe de toujours plus? Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Pas que nous nous contentions d'un peu, mais qu'on dise j'en veux plus. C'est pas Future Shop, hein, c'est pas ça. J'en veux plus, hein. J'ai entendu ça quelque part. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie, quand Joas vient voir Élisée, il est en train de lui dire au travers de cette formule, tu te souviens de ce qui s'est passé quand tu étais jeune avec Élie? Moi, maintenant, je veux être ton successeur, je veux ta bénédiction, je veux ton onction, je veux ta grâce, moi je suis le roi d'Israël et je veux que l'Esprit de Dieu soit avec moi. Et voilà que le prophète Élisée va répondre à Joas, voilà ce que tu vas faire, Joas, tu vas prendre un arc, tu vas prendre des flèches, et puis tu vas bander ton arc, donc tu vas, enfin vous connaissez les Indiens ici, hein, les Amérindiens, vous savez comment ça marche, peut-être mieux que moi un arc et des flèches, non? Il y a des Indiens dans le coin, il y a des tribus indiennes de Romandville, oui? Je sais pas, à Montréal on entend parler là des canas attaqués, c'est ça là? Ils font des bons. Il y en a ici aussi. Odanak. Oula. Bon, on ira voir les Odanak. Alors. Donc, tu tends ton arc, tu mets une flèche, tu tends ton arc, et puis Élisée va venir mettre ses mains sur les mains de Joas. Pourquoi mettre ses mains sur les mains de Joas? Pour dire là comme une identification, ce que tu es, ce que je suis, ensemble, et tu vas lancer cette flèche dans une direction bien précise. Ben, tu vas ouvre la fenêtre, lance cette flèche en direction de l'Orient, et cette flèche-là, c'est une flèche de délivrance. C'est évidemment symbolique, mais ce symbole est là pour montrer en disant ensemble, parce que je suis avec toi, parce que tu es avec moi, parce que tu es venu chercher cette bénédiction, cette flèche est une flèche de délivrance. Parce qu'Israël, en ce temps-là, était malmené, il y avait l'ennemi qui était là par les Syriens, et là, le roi d'Israël vient chercher du secours auprès du prophète, et le prophète lui annonce une bonne nouvelle, la délivrance est là. Et cette flèche est une flèche de délivrance. Et voilà qu'après, Élisée va dire, maintenant, tu prends les flèches, tu vas prendre le reste des flèches, et tu les frappes contre terre. Peut-être que là, le roi se dit, mais c'est quoi toutes ces affaires, là, c'est bizarre. Mais en tout cas, prends tes flèches et frappe-les par terre. Si je vous demandais ce matin, prends des flèches et frappe-les par terre. Vous avez frappé combien de coups? Quand vous allez chez quelqu'un, vous frappez combien de coups? Toc, 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 toc. Le roi Joas, lui, va frapper 3 coups par terre et Élisée va se mettre en colère. Il va s'irriter. Il va pas être content. Il va dire, mais non! C'est quoi ça? 3 coups? Tu vas où avec 3 coups, là? Il fallait faire au moins 5. Vous allez dire, bon, entre 3 coups et 5 coups, ça fait combien ça? 2? C'est pas beaucoup comme différence, là. 3 coups, 5 coups, c'est à peu près la même chose. Non! Pour Élisée, c'est pas la même chose. Et si je viens chez vous et que je frappe à votre porte, je vais frapper, hein. Je frappe à votre porte. Si je fais, ça va? Il y a combien de coups, là? 3. Mais si j'arrive et que je frappe comme ça, est-ce que ça veut dire la même chose? Quand on entend frapper, toc, 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 ou quand on entend frapper, pop, 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 on dit, ouh, c'est pas la même chose, là. Vous voyez qu'entre 3 coups et 5 coups, c'est pas la même chose. 3 coups, là, paf, 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 un peu mou, un peu timide. Bon, je tape tes 3 coups, là, 1, 2, 3 coups. Mais 5 coups, il y a de la détermination, là. Quand quelqu'un vient frapper 5 coups à votre porte, il dit, ouh là, quelqu'un de déterminé, on a l'impression que c'est la police. La police, ouvrez! Hein, il y a de la détermination dans ces 5 coups. Et Élisée se met en colère contre Joas en disant, tu vois, là, tu tapes trop mollement. Tu as frappé que 3 coups, il fallait frapper plus fort. Il fallait en vouloir plus. Il fallait être davantage déterminé. Tu viens vers moi en reprenant ma formule, char d'Israël, char d'Israël et sa cavalerie, tu reprends ma formule, mais tu n'as pas la même détermination que Élisée avait quand il était auprès d'Élie. Élisée était déterminé et il voulait cette double portion de l'esprit d'Élie, mais là Joas n'a pas cette même détermination. Joas est bien timide. Joas est bien réservé juste un peu. Ça veut trois petits coups, ça me suffit. Hein, ça fait un petit peu trois petits tours et puis s'en vont. À la cantine pour les enfants, c'est ça, quoi. Juste trois coups. Puis bon, on va faire ton affaire. Non, il faut être déterminé. Élisée était déterminé à avoir une double portion de son esprit. Il faut que je sois juste avec vous. Une double portion, dans le sens hébreu, ça a un sens particulier. La double portion, c'est celle qui est réservée à l'aîné. Il y avait dans un héritage, il y a différentes portions, et l'aîné avait une double portion. Et quelque part, quand Élisée dit « moi je veux une double portion », c'est « je veux la portion du fils aîné ». Pas forcément double par rapport à la tienne, même si on peut la comprendre comme ça aussi, mais une double portion par rapport aux autres, une double portion. Et si vous remarquez bien, si vous voulez faire une étude sur le livre des rois, vous verrez que Élie, il y a 6 miracles du prophète Élie dans le livre des rois. Et pour Élisée, à votre avis, on en a combien? 12. Même s'il y en a une, la dernière, qui est presque à titre posthume, puisqu'il était mort quand il a fait son 12e miracle. Oui, Élisée était mort quand il a fait son 12e miracle. Il était là dans la tombe, et puis quand on a... Il y a un moment, il y a eu une guerre, et puis on a dû mettre un autre mort avec lui, vite fait, dans la même fosse. Et quand ce mort a touché les os d'Élisée, il est ressuscité. Bon, 12 miracles pour Élisée, 6 miracles pour Élie. Une double portion. Donc on peut le comprendre comme ça aussi mathématiquement. Mais nous, en ce qui nous concerne, est-ce qu'on ressemble plus à Joas ou à Élisée? Quelle est notre détermination? Est-ce qu'on va frapper 3 coups? Ou est-ce qu'on va frapper 5 coups? Est-ce qu'on est là déterminé? Quand Dieu nous demande ce matin, ben vas-y, frappe 3 coups. Celui qui frappe, hein, demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira. Vous allez frapper combien de coups? Oh, j'ai demandé, mais je n'ai pas reçu. J'ai frappé, puis ça ne s'est pas ouvert. Vous allez frapper combien de coups? Quand Jésus parle de la prière, il nous parle de cet ami qui va la nuit voir son voisin parce qu'il y a un autre ami qui est venu lui rendre visite et il n'a pas assez de pain à lui donner. Alors il va voir son voisin et dit « Hé, j'ai un ami qui est là, viens. Viens me donner du pain pour que je puisse le nourrir. » Puis l'ami dit « Mais nous, on est déjà couchés, on dort tous, arrête de nous déranger, arrête de nous importuner. » Et on frappe encore à la porte. Et il frappe, jusqu'à ce que l'autre soit obligé de se lever et de lui donner ce dont il avait besoin. Mais en ce qui nous concerne, quelle est notre détermination spirituelle? Est-ce qu'on frappe juste 3 coups au sol ou est-ce qu'on frappe 5 coups? Et entre 3 et 5, apparemment, il n'y a pas grand-chose. Et pourtant, ça fait toute une différence, puisque Élisée, se fâchant après Joas, va lui dire, tu vois, puisque tu as frappé 3 coups, tu vas être vainqueur 3 fois sur les Syriens. Mais si tu avais frappé 5 coups, tu aurais été vainqueur à vie. Ça fait une différence, hein? Entre le gagnant à vie et le gagnant 3 fois. Ça fait toute une différence. Tout ça parce qu'il y a juste 2 coups de plus. Et des fois, dans notre vie spirituelle, on ne réalise pas ce que ça peut représenter que d'investir un peu plus, que de s'engager un peu plus, que d'en vouloir un peu plus, que d'être un peu plus déterminé, un petit peu plus déterminé, un petit peu plus là de combativité, et ça fait toute une différence dans la prière, dans le témoignage, dans la vie chrétienne. Jésus disait, je vais vous citer ça, ou on peut le lire ensemble si vous voulez, c'est dans Matthieu, c'est une parole que des fois on peut mal comprendre. On est là dans Matthieu chapitre 11. On va prendre juste une phrase, mais on peut prendre le contexte aussi. verset 12. Matthieu, chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et Jésus continue, à qui comparerai-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques, à qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon ». Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifié par ses œuvres. C'est sûr que cette petite phrase du verset 15, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, on comprend que quand Jésus dit cette phrase-là, quelque chose de délicat et peut-être de plus compliqué à comprendre. Enfin, Jésus dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Du moins, vous connaissez cette expression, vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Violents. Ça veut dire quoi, violent, là? Il faut vraiment tout casser. Tout casser pour s'emparer du royaume de Dieu. Parce que ça veut dire qu'il faut faire la guerre, qu'il faut faire l'inquisition, qu'il faut sortir les épées pour s'emparer du royaume de Dieu. Non. Ce sont ceux qui utilisent la force. Et là, dans le mot violence, c'est cette notion de force. D'autres Bibles ont traduit différemment, en disant, c'est avec courage. Et ce sont les courageux qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc cette violence, il ne s'agit pas d'une violence dans le sens négatif du terme, mais il s'agit de courage, il s'agit de force, il s'agit de témérité. Est-ce qu'on est des soldats courageux? Est-ce qu'on est des soldats? Est-ce qu'on a cette force? Est-ce qu'on a cette témérité? Est-ce qu'on va frapper 3 coups ou est-ce qu'on va frapper 5 coups? Et Jésus dit, il faut de la détermination. Parce que ça s'enchaîne quand Jésus dit, à quoi comparerait-je cette génération? Comme à ces enfants qui viennent et qui disent, on a joué de la flûte. Et vous n'avez pas dansé. On a chanté des complaintes et vous vous êtes pas lamenté. Quelque part, vous réagissez pas. On est venu avec de la joie et ça n'a pas mis de joie dans votre cœur. On est venu avec une bonne nouvelle et ça n'a pas mis de joie dans votre cœur. On est venu avec une nouvelle triste et il n'y a pas eu de compassion dans votre cœur. On est venu avec des choses sérieuses, poignantes et il n'y a pas eu de compassion dans votre cœur. Est-ce qu'on est comme cette génération que Jésus décrit? Quand il y a de la joie, on n'est pas là. Et quand il y a de la complainte, on n'est pas là. Si on actualise, on est venu avec la bonne nouvelle, on est venu avec un message de joie, on est venu avec le salut, on est venu avec des choses extraordinaires concernant les trésors du royaume de Dieu, et ça n'a pas réjoui votre cœur. Et vous n'avez pas saisi toute la joie qu'il y a de connaître Dieu, le trésor extraordinaire qu'il y a d'être dans sa présence, la bonne nouvelle. Mais quand on reçoit une bonne nouvelle, ça met de la joie dans notre cœur, non? Vous avez déjà reçu des bonnes nouvelles? Une bonne nouvelle. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais pas une bonne nouvelle pour dire, oui, c'est une nouvelle qui est bonne. Non, c'est pas une nouvelle qui est bonne. C'est une bonne nouvelle. Nouvelle qui réjouit mon cœur. Moi, quand j'ai des bonnes nouvelles, j'aime ça. Pas vous? Eh bien, l'Évangile, c'est cette bonne nouvelle, et j'aime ça. Et ça réjouit mon cœur, ça met de la joie dans mon cœur. Et quand les musiciens jouent de la flûte, est-ce qu'on danse? Évidemment, je prends le texte, là. Est-ce quand on est là avec de la joie, il faut nous entraîner dans la joie, est-ce qu'on est là dans cette joie, en disant, oui, moi aussi, je veux être là, pour louer le Seigneur avec joie, pour me présenter dans sa présence avec joie, louer l'Éternel, et qu'il y ait de la joie dans notre cœur. Parce qu'en effet, sa fidélité est grande. Mais il y a aussi, nous avons chanté des complaintes. Nous avons chanté des complaintes. Et vous ne vous êtes pas lamenté. Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Ça veut dire qu'il y a aussi un message qui doit nous amener à verser des larmes. Un message qui doit nous amener à avoir de la tristesse dans le cœur. Quand on voit ce qui se passe autour de nous. Quand on voit ce qui se passe en mission. Est-ce qu'on est sensible à la mission? Je le crois, vu l'offrande missionnaire qu'il y a, gloire à Dieu, merci pour ça. Qu'on dise, ben là, être sensible aux besoins, pas être indifférent, être sensible aux besoins de Drummondville. Quand on voit toutes ces difficultés, tous ces fardeaux, tous ces suicides, quand on voit toutes ces choses autour de nous, pas être là en disant, bon, ben, moi ça me fait ni chaud ni froid. Ça s'appelle avoir un cœur dur, un cœur de pierre. Et le prophète Ésaïe pouvait dire, ben, que Dieu veut transformer. Je dis Ésaïe, mais c'est Jérémie, excusez-moi, je ne sais pas, vous ne m'en voudrez pas. Jérémie disait que Dieu veut changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Et que notre cœur ne soit plus un cœur de pierre, mais un cœur vivant. Un cœur qui sait aimer. Un cœur qui sait se réjouir. Qu'on puisse mettre notre cœur. On y met notre cœur, on prend à cœur. Vous voyez toutes ces expressions avec le mot cœur. Qu'on puisse prendre à cœur la parole de Dieu. Prendre à cœur l'œuvre de Dieu. Qu'on puisse y mettre notre cœur. Est-ce que Dieu n'a pas dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur? Si notre cœur est un cœur de pierre, l'amour qu'on va avoir pour Dieu va être bien froid. Qu'on puisse aimer Dieu de tout notre cœur, avec un cœur là, bouillonnant, un cœur vivant, qu'on puisse y mettre notre cœur pour se réjouir, pour la joie, pour le bonheur, pour le salut, là, dire Seigneur, oui, viens vivre dans mon cœur, mais qu'on puisse mettre notre cœur aussi pour nous soucier du royaume de Dieu. Jésus, à l'âge de 12 ans, était dans le temple. Ses parents étaient partis, il n'a pas fait attention qu'il n'était pas avec lui. Quand ils sont revenus, ils l'ont trouvé et ils disent, mais Jésus, on te cherche. Et Jésus, à l'âge de 12 ans, pouvait dire, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il prend à cœur les affaires de son Père dans le ciel. Et que nous aussi, nous puissions prendre à cœur, chercher d'abord le royaume de Dieu, qu'on puisse prendre à cœur les affaires de Dieu, les affaires de notre Père. Ils ont joué de la flûte, ils n'ont pas dansé. Ils ont chanté des complaintes, ils ne se sont pas lamentés, ils n'ont pas réagi au message de la parole de Dieu. Ils n'ont pas réagi, ils sont restés là indifférents. On est dans un monde de plus en plus indifférent. Du moins dans le monde occidental, on est dans un monde de plus en plus indifférent. Où on va pouvoir passer devant quelqu'un qui est en train de mendier, qui est là sans rien, et puis on va dire, bon, ben, c'est comme ça. Notre cœur est là comme insensible. Qu'on puisse être ouvert sur les besoins matériels de ce monde, c'est vrai. Mais qu'on puisse être ouvert aussi sur les besoins spirituels. Parce que si les chrétiens ne sont pas sensibles et sont froids, n'ont pas de cœur par rapport aux besoins spirituels de notre monde, et c'est pas seulement en mission à l'étranger, c'est aussi en mission ici. Les assemblées de la Pentecôte du Canada ont fait le point ces dernières années et sont vraiment arrivées à cette conclusion de dire que le Canada, c'est un champ missionnaire. Que le Canada, c'est pas gagné, c'est un champ missionnaire. Et à plus forte raison, le Québec, parce qu'en ce qui concerne le monde évangélique, le Québec, c'est le parent pauvre. Et le Québec, c'est un champ missionnaire. Et il y a des besoins spirituels et qu'on puisse être sensible à ces besoins. Mais maintenant, par rapport à ces besoins, comment est-ce qu'on va réagir? Avec 3 petits coups de flèche ou avec 5? Est-ce qu'on va dire, oui, il y a des besoins, Seigneur, je vais faire ma petite prière. Seigneur, je vais faire ma petite contribution. Seigneur, je vais faire mes 3 petits coups de prière, mes 3 petits coups de contribution, ma BA, ma bonne action, faire plaisir au pasteur et puis voilà. Non, c'est pas ça. C'est s'impliquer, c'est s'engager, c'est se faire violence. Moi, personnellement, quand je lis ce passage concernant la violence pour entrer dans le royaume de Dieu, pour moi, c'est se faire violence. Pas faire violence aux autres, mais se faire violence à soi-même. Hey, ressaisis-toi, là. Un peu comme David, quand il vient se parler à lui-même et qu'il va parler à son âme, en disant, hey, mon âme, arrête de pleurer, là, réjouis-toi, mon âme. Réjouis-toi, mon âme, n'oublie pas ses bienfaits, souviens-toi de ce que Dieu a fait. Et qu'on puisse peut-être se reparler à nous-mêmes et dire, c'est pas le temps de dormir, c'est pas le temps de s'endormir, c'est pas le temps de frapper juste 3 coups, on va y aller fort, on va frapper, mais 3 fois. Et ça peut faire pareil en ce qui concerne une vie d'église. On peut peut-être dire, suite au message qu'on a entendu, on va faire un petit effort, on va essayer de se réveiller un peu spirituellement, on va mettre 3 coups, on va avoir 3 victoires, et puis après. Après, on sera au même point que là où on était avant. Jésus réveille ses disciples, disant, c'est le moment de prier, là, pourquoi vous dormez? Alors il se réveille, il va un peu plus loin, il prie, quand il revient, il dort encore. Réveillez-vous! Est-ce que on va se réveiller comme ça jusqu'à la prochaine fois où on va dormir? Ou est-ce qu'on va frapper 5 coups avec nos flèches au sol? Pas pour jusqu'à la prochaine fois où on va dormir, mais comme le dit le prophète, si tu avais frappé 5 coups, tu aurais été toujours vainqueur. Tu aurais exterminé les Syriens jusqu'au dernier. Il y aurait eu une victoire extraordinaire, une victoire parfaite. Pourtant, entre 3 et 5, il n'y a pas grand-chose. De la même manière dans notre vie, entre 3 et 5, il n'y a pas grand-chose. Entre le petit effort que l'on peut faire pour Dieu, de lire un peu plus la Bible, de se consacrer peut-être davantage, de dire, Seigneur, moi je veux en donner un peu plus pour toi, je veux vivre un peu plus pour toi, ou d'être là comme un battant spirituel, et de dire, je ne veux pas m'en contenter d'un peu, mais je veux là vraiment mettre tout mon cœur et vraiment être là consacré. C'est ça être consacré. C'est pas un peu seulement, mais c'est être là déterminé. Déterminé. Non? Un coach, quand il a une équipe de sport, je sais pas quelle équipe de sport faut prendre, parce que en France c'est le, enfin au Portugal c'est l'Euro actuellement, mais c'est le soccer. Un coach là qui est en train de mener une équipe de sport, il va dire, écoutez, les gars, vous faites ce que vous pouvez. Si vous arrivez à gagner quelques points, ce sera bien. Ça marche pas comme ça. Non? Le coach là, il va les bouger. Il y a des coachs plus ou moins forts. Il va même les crier après ou les insulter ou je sais pas. Mais il va essayer de faire en sorte que l'équipe donne le maximum. Moi, des fois, j'ai l'impression que le Seigneur veut que je sois un coach pour l'Église. Pour faire sortir de l'Église le maximum. Et je crois que le maximum, c'est extraordinaire, parce que c'est le maximum avec Dieu. C'est pas le maximum des hommes, mais c'est le maximum que Dieu veut faire au milieu de nous. Mais pour ça, qu'on puisse vraiment, chacun pour notre part, s'engager, s'investir, se donner, se consacrer. Et pas seulement frapper 3 petits coups avec nos flèches, mais dire, Seigneur, moi je veux être déterminé. Je ne veux pas me laisser abattre. Je ne veux pas me laisser la vaincre. Je ne veux pas dire, moi je suis venu à l'église, vous savez, juste pour faire ma... juste pour être là un petit peu, c'est tout. Pourquoi pas plus? En vrai, comme vous donnez envie ce matin de chercher davantage, d'en vouloir plus. Je disais aux jeunes vendredi, Apôtre Pierre disait, aspirez, désirez, il en faut plus. Pas se contenter de ce que l'on a. Pas dire, moi je suis bien, je suis mieux que les autres. Tant mieux si tu es mieux que les autres. Mais tu peux être plus encore. Tu peux être plus. Avoir plus d'onction, plus d'esprit, plus de puissance. Être davantage rempli du Saint-Esprit. Manifester davantage les dons spirituels. C'est possible ça? Oui? Ou non, on peut pas, on peut plus. Est-ce que, de manière collective, l'Église peut manifester davantage les dons spirituels? Est-ce que là, il n'y a pas besoin, peut-être, d'être davantage, se faire violence, je peux dire ça comme ça, d'être davantage combatif? Vous allez dire, mais comment, là? C'est pas nous, ça, c'est Dieu. Ah, vous savez, Dieu, il fait avec nous. Si on veut pas, il va pas nous forcer. Un proverbe qui dit, on force pas un âne à boire. Un âne qui veut pas boire, on peut pas le forcer à boire. C'est comme ça qu'on dit. Je me souviens plus de la... Ah, c'est un cheval chez vous? Chez nous, c'est un âne. Bon, un cheval qui veut pas boire, on peut pas le forcer à boire. De la même manière, si nous, c'est mieux finalement de se comparer à des chevaux qu'à des ânes. Si nous, on n'a pas soif, le Seigneur va pas nous forcer. Et si on a soif, il y a la ressource en Dieu, la matière, il y a la puissance, et il veut nous donner. Qu'on puisse être là davantage combatif, désireux, disant « Seigneur, je ne veux pas 3 coups, mais 5 coups, et je veux vivre. » Et puis on parlait de la vie spirituelle et des dons spirituels, et de dire « Seigneur, là, que les dons spirituels puissent les manifester davantage. » Honnêtement, avant de venir ce matin au culte, est-ce que vous avez prié en disant « Seigneur, sers-toi de moi ce matin pour manifester un don spirituel. » Est-ce qu'on ne peut pas prier dans ce sens-là? En disant « Seigneur, écoute, c'est vrai, c'est l'Esprit qui donne comme il le veut. C'est écrit et c'est vrai. » Mais est-ce qu'on ne peut pas nous-mêmes, au moins, venir devant Dieu en disant « Seigneur, moi je veux être disponible. » En disant « Si tu cherches quelqu'un, je suis là. S'il y a besoin, je suis là. Je veux me rendre disponible pour toi. Je veux me consacrer pour toi. » Est-ce qu'on ne peut pas le matin, chaque matin, des jours de la semaine, pouvoir dire « Seigneur, aujourd'hui, je veux être disponible pour que tu te serves de moi, pour apporter une parole, pour apporter ta parole, pour apporter un message d'encouragement, d'exhortation à ceux qui m'entourent. Sers-toi de moi. » Des fois, on est là en disant « Seigneur, donne-moi plus », mais on n'ouvre pas la porte. Si vous voulez que le Seigneur verse davantage en vous, ouvrez la porte plus grand. Sinon, ça ressemble à un sablier. Vous savez, dans un sablier, pour faire passer le sable du haut en bas, ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce que c'est tout petit. Hein. C'est Bell hein, qui faisait de la publicité là-dessus, avec haute vitesse. Vous avez vu le sablier sympathico haute vitesse? Non, vous ne l'avez pas vu hein, il y a quelques mois, il faisait ça comme publicité. Donc vous avez le petit sablier, puis vous voyez aller le sable qui coule. Mais le sablier de sympathico haute vitesse, il n'est pas fin comme ça, mais c'est juste un cylindre. Vous voyez, juste un cylindre, vous le retournez, ça met combien de temps pour que le sable descende? Voilà, c'est ça qu'il nous faut. Que l'ouverture soit pas petite et que ça vienne comme ça tout doucement. Et qu'on puisse s'ouvrir et dire, Seigneur, là, donne-nous. Mais pour ça, ouvrons notre cœur, élargissons notre cœur. Et soyons pas limités à juste quelques coups, quelques 3 coups de flèche, mais dire, Seigneur, je veux plus pour toi. Et là, nous serons vainqueurs, non pas seulement une fois, non pas seulement 2 fois ou 3 fois, mais nous marcherons dans la victoire. Et nous serons un peuple victorieux dans la victoire. Une église là qui marche de gloire en gloire, de puissance en puissance, de miracle en miracle, de victoire en victoire. Et c'est possible. Et c'est pour nous. Un coach, vous savez, il ne peut pas emmener son équipe là où ce n'est pas possible. Je ne sais pas si le coach, il peut emmener les Canadiens de Montréal à la Coupe Stanley. Je ne sais pas si c'est possible. Bon, mais un coach là qui viendrait dire « Allez, on va être les champions du monde !» Ben, si l'équipe, elle peut pas. On peut pas demander à un enfant de faire quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Mais Dieu nous demande pas des choses qu'on n'est pas capable de faire. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est pas quelque chose d'impossible. Je crois que c'est la volonté de Dieu que nous marchions de victoire en victoire et que cette église-là soit pas juste dans 3 petits coups, mais vraiment là dans une détermination qui amène vraiment là la bénédiction, la faveur, la grâce de Dieu et la victoire. Amen.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.